Leur vie coulait donc ainsi, douce et crérenne, dans un bonheur négatif et presque nuageux, qui jusqu'à présent du moins leur avait suffi. Le monde avait bien un peu regardé d'un œil ironique cette sorte de liaison idéale, mais ces railleries avaient été forcées de tomber devant l'attitude profondément honnête, grave et placide de Pauline et de Georges. Seul M. de Chavry montra une inquiétude qu'il eut quelque peine à calmer. La présence de M. d'Alfaret avait fini par troubler son imperturbable confiance, et sans se départir des habitudes de galant homme qui étaient de fait sa seule morale, il se sentait parfois au cœur des soupçons dont il ne triomphait pas toujours aussi facilement qu'il l'aurait voulu. Pauline, qui avait assez étudié ce caractère pour en connaître les faiblesses, n'eut recours à aucun faux fuyant pour rassurer son mari. Elle ne voulut mettre aucun mystère dans une conduite qui pouvait s'en passer, et elle continua de vivre ouvertement sous le regard de M. de Chavry. « Je n'ai rien à cacher, se disait-elle. S'il me parle, bien, je lui dirai tout. » Elle n'en eut pas besoin, car son mari rendit spontanément à sa vertu un hommage qu'elle ne réclamait pas. Un soir, après le dîner, Georges était assis au coin du feu auprès de Pauline. C'était l'heure où M. de Chavry avait l'habitude d'aller au club. Quand il rentra dans le salon pour dire adieu à sa femme et qu'il vit Georges près d'elle comme déjà si souvent il l'avait vu, il ne put retenir un geste de mauvaise humeur. Il ôta ses gants, prit un fauteuil et s'installa devant la cheminée dans l'attitude d'un homme décidé à ne point quitter la place. Georges et Pauline se regardèrent et reprirent leur conversation à laquelle M. de Chavry ne se mêla point. Il semblait contrarié de sa propre défiance ou de la présence de Georges. Je ne sais. Il ne parlait pas, s'absorbait dans la contemplation du feu, changeait ses jambes de place, tapotait de ses doigts nerveux les bras de son fauteuil et paraissait pris entre toutes sortes d'hésitations. Tout à coup, il se leva et, tendant la main à sa femme, il lui dit adieu avec un de ces sourires derrière lesquels aucun soupçon ne saurait se cacher. « Mais qu'a-t-il donc ?» dit Georges à Pauline. « Rien, répondit-elle. Seulement, il a compris que nous nous aimions. » Ce fut le premier aveu, et Pauline fut bien imprudente de le prononcer, car il renversait le compromis derrière lequel leur cœur s'abritait, et il allait livrer passage à toutes les ardeurs de leur passion contenue. De ce jour, en effet, aucun de leurs doutes conventionnels ne pouvait subsister. Ils n'avaient plus rien à s'apprendre. Le mot de Pauline contenait plus qu'un encouragement. Il avouait une défaite, et c'est là une confession que la femme, lorsqu'elle veut demeurer toujours pure, ne doit jamais faire, fût-ce même au complice de sa vertu. Ce seul mot les avait pour ainsi dire désarmés, et ils ne pouvaient rester vertueux que par un accord tacite de grâce et de générosité. Combien de temps pouvait durer cet accord ? Et de quel poids serait-il dans la main de la destinée qui pousse fatalement l'un vers l'autre les cœurs épris d'un même amour? Extérieurement, rien n'était changé en eux, mais un élément nouveau s'était glissé dans leur âme. Une révolution s'y était faite. Malgré leurs efforts, ils étaient la proie du dieu jaloux, contre lequel n'a jamais combattu en vain. Ce n'est plus seulement contre leur cœur qu'ils avaient à lutter maintenant. L'un et l'autre, avec une bonne foi et un courage surprenant, appelaient des secours étrangers à l'aide de leurs forces chancelantes. Pauline priait, elle faisait des aumônes, elle demandait humblement à Dieu d'éloigner de ses lèvres altérées cette coupe toute pleine d'une tentation charmante. Elle écoutait avec empressement les banales paroles qu'un prêtre murmurait à son oreille, espérant y trouver une lueur qui lui montrerait la vérité, un point d'appui qui la soutiendrait dans sa marche difficile. Et elle rentrait chez elle plus énervée, plus anxieuse, toujours décidée à rester maîtresse d'elle-même, mais désespérée du travail terrible qui se faisait en elle et qui ébranlait ses résolutions les meilleures. Quant à Georges, il multipliait ses travaux. Il touchait à tout en même temps avec une activité fébrile. Mais sa pensée était ailleurs, emportée par un tourbillon qu'elle ne dominait pas, le laissant inutile et sans intelligence en fin de ses études qu'il ne comprenait plus. Ses yeux lisaient, mais n'envoyaient à son cerveau que des mots vides de sens qui défilaient devant lui comme les vocables d'un langage inconnu. Il laissait alors tout ce fatras scientifique, il faisait des armes ou crevait ses chevaux dans des courses insensées, demandant aux fatigues du corps d'endormir le démon, le dieu peut-être, qui veillait obstinément en lui. Enfin, il faisait des vers, symptômes graves pour un philologue. Un matin que sa mère entrait chez lui, elle avisa sur la table une feuille de papier couverte de ces petites lignes dont l'inégale longueur constitue seule, au point de vue de certains gens, la différence de la poésie à la prose. Elle prit le papier. Il est à toi, ce cœur dont l'espérance va vers le tien comme l'encens vers Dieu. Mon fils, dit-elle, les femmes ne sont pas des étoiles, et pour les approcher, il n'est pas nécessaire de monter au septième ciel. Georges la regardait pendant qu'elle rejetait ses vers sur la table. Oh, mon pauvre père, se dit-il à voix basse. La pensée du vieillard qu'il avait évoquée ne le quitta pas lorsqu'il fut resté seul. Nos morts vivent en nous, ceci n'est point douteux. Souvent, ils nous apparaissent intérieurement les instants périlleux de notre vie. Et leurs conseils nous dirigent à travers les obstacles qui barrent notre chemin. Dans le dédale où se perdaient les résolutions de Georges, il lui sembla que la voix de ce père qu'il avait tant aimé s'élevait lentement du fond de son cœur et lui disait « Lutte et à tout prix triomphe. Puisque tu aimes, ne laisse pas l'objet de ton amour descendre les degrés qu'on ne remonte plus et n'expose jamais un fils à souffrir par sa mère ce que tu as souffert par la tienne. » Un accès de jalousie vint encore amollir sa résistance en lui prouvant jusqu'à quelle hauteur son amour était monté. Un soir, on annonça chez Pauline le comte Ladislas Palki. Georges se souvint de ce qu'il avait entendu dire à sa mère, et il eut un tressaillement impossible à vaincre en voyant entrer un homme de 35 à 40 ans, qui était le type le plus parfait de la beauté mâle et rêveuse de la race slave. Pauline l'a accueilli comme un vieil ami avec toutes sortes de joie et d'amabilité. À ses questions, il répondait d'une voix si douce qu'elle trahissait une vive affection. Plusieurs fois, Pauline lui serra la main. Georges foudroyait de ses regards Ladislas, qui paraissait ne pas s'en apercevoir. Monsieur de Chavry rentra du club plus tôt que de coutume. Il fit de grandes amitiés à Ladislas. Oh, le pauvre Georges n'en pouvait mais. Il avait presque envie de souffleter le comte Palki parce qu'il était venu, et monsieur de Chavry parce qu'il était rentré. Il comprit que bientôt il ne serait plus maître de lui et qu'il allait faire quelques sottises. Il se leva, ouvrit la porte du salon et sortit sans dire adieu à personne. À le voir partir, Pauline devina tout. La nuit fut mauvaise pour Georges comme pour Pauline. Georges était fort mécontent de lui et ne pouvait s'empêcher de divaguer tout en sentant qu'il ne pensait que des sottises. Pauline n'était pas irritée, mais elle était profondément triste. Un découragement sans borne l'avait affaiblie. Elle se disait, malgré elle, « Si j'étais à lui, il ne douterait jamais de moi et ne souffrirait plus. » Le lendemain, Georges courut chez Pauline. « Je vous attendais, lui dit-elle. Hier, vous êtes parti plein de colère et vous m'avez fait beaucoup de peine. » « Aimez-vous le comte Palki? L'avez-vous jamais aimé ?» lui demanda-t-il sans même l'écouter. « Jamais !» lui répondit-elle avec un triste sourire, en dirigeant vers lui l'indicible loyauté de son regard. Georges laissa échapper un soupir, comme un homme soulagé d'un grand quoi. « Oh, je le pensais bien !» s'écria-t-il. « Mais pourquoi donc, alors, ai-je tant souffert ?» Ils parlèrent ensemble de Ladislas avec un abandon sans réserve, et qui paraîtrait étrange après l'espèce de crise nerveuse qu'ils avaient subie, si l'on ne savait qu'entre amants de bonne foi, un mot dissipe tous les orages. « C'est un héros, lui dit Pauline. Oh, c'est une sorte de soldat d'avant-poste. » Toujours au premier rang quand il s'agit de combattre ceux qui se sont partagés sa patrie. Une aventure tragique en a fait un personnage célèbre en Allemagne et a donné du retentissement aux soins qu'il m'a rendus. Il était le chef d'une de ces conspirations qui ont éclaté dans le grand-duché de... Tout était prêt pour l'action. Ladislas et 8 de ses amis devaient aller à quelques lieues de la ville, soulever un régiment de cavalerie travaillé d'avance et à l'aide duquel on voulait marcher sur le siège du gouvernement. La veille du jour fixé pour l'action, les amis de Ladislas, entrés un à un et séparément dans la ville, s'étaient cachés dans sa maison. La soirée fut employée aux dernières dispositions et l'on s'ajourna au lendemain à 6 heures du matin. À cette époque, Ladislas était lié avec la jolie princesse K, que vous avez vue à Paris et qu'on appelait la fée, Caroline, à cause de son petit nez un peu écrasé. Il se rendit chez elle et n'en sortit qu'à 4 heures du matin. C'était en hiver, par une nuit brumeuse. Ladislas revint chez lui, entra dans le grand salon où ses amis dormaient, de-ci, de-là, sur des matelas placés au hasard, et se jeta, épuisé de fatigue, dans un fauteuil. Il dit à son domestique de le laisser dormir 1 heure seulement. Quand à 5 heures on réveilla les conjurés, ils virent Ladislas plongé dans un de ses sommeils vainqueur de tout ce qui dénote une lassitude profonde. Ils dirent au domestique, comme lui-même me l'a depuis raconté, « Laisse dormir le comte. Le rendez-vous général est à 9 heures. Celle-lui sa jument anglaise. Réveille-le à 7 heures, dis-lui que nous l'attendons. Avec un temps de galop, il nous rejoindra. » Puis ils sautèrent en selle et partirent après s'être donné le baiser de paix de ceux qui vont à la mort. Lorsqu'à 7 heures, Ladislas fut réveillé, il entra dans une colère violente, maltraita son domestique et partit comme un fou pour rejoindre ses compagnons. Il galopait à perdre haleine sur la route humide. Il avait déjà fait plusieurs lieues et approchait de l'endroit fixé pour le rendez-vous, lorsqu'à travers le brouillard, il aperçut des hommes qui, de loin, sur le chemin, regardaient de son côté. Il s'avança, C'étaient des paysans réunis près d'une ferme. Ils se jetèrent résolument à la tête de son cheval et, malgré ses efforts, ses injures et ses coups, ils parvinrent à l'arrêter. Ne craignez rien, lui disait-il. Nous vous connaissons, vous êtes le comte Palki. Nous sommes des vôtres, mais avant d'aller plus loin, venez voir vos amis, ils sont ici tous. Après, vous continuerez votre route si vous voulez. Ladislas les suivit. On le conduisit dans un verger. Aux branches des arbres, il vit ses 8 compagnons pendus, morts. Le secret du complot avait été livré. Une escouade était venue attendre les conjurés sur la route. Ils avaient saisi, exécuté et s'en étaient retournés, satisfaits de ses œuvres, sans se douter que le principal coupable n'était point parmi les victimes. Les paysans cachèrent Ladislas. Le soir, il rentra dans la ville et il se rendit chez la princesse Scar, qu'il attendait si peu qu'il put se convaincre qu'elle le trompait. De nouveau, Ladislas se sauva, se cachant le jour dans les métairies isolées, marchant la nuit, échappant à 1000 pièges tendus le long de sa route, et ainsi poursuivi, souffrant de la faim et du froid, portant dans l'âme une double blessure de conspirateur trahi et d'amant trompé, il arriva dans la ville de où nous résidions. Là, il était libre et en sûreté. Son aventure avait fait grand bruit. Il devint le lion du moment, comme disaient les Anglais. M. de Chavry le rencontra, se lia avec lui et me l'amena. Ladislas m'a aimé, cela est vrai, il me l'a dit. Mais je n'ai agréé de ses soins que ce que j'en devais accepter. Je sais que beaucoup de femmes m'ont envié cette recherche et n'ont pas compris que je l'eusse repoussée. Mais une nature loyale comme la sienne ne pouvait s'y reprendre. Il a senti que ses nobles qualités avaient mieux à m'offrir qu'une galanterie coupable. Et il est devenu pour moi un de ces amis sur lesquels on peut compter pour toutes les choses de la vie et de la mort. Georges avait écouté en silence ce long récit, dont la sincérité le frappait. Il baisa les mains de Pauline. « S'il est votre ami, dit-il, il sera aussi le mien. » Mais les souffrances qui le remuaient depuis la veille avaient épuisé ses forces. Il éclata tout d'un coup en sanglots, et serrant Pauline contre son cœur, il s'écria « Ne puis encore me résigner à n'être jamais à vous. Mais si vous aimiez quelqu'un, si par malheur vous en aviez jamais aimé un autre, je vous tuerais. » Il était arrivé à un paroxysme violent. Il eut une espèce d'attaque de nerfs. Et il répétait sans cesse « Sommes-nous malheureux, sommes-nous malheureux ?» Le soir, lorsque Ladislas arriva, Pauline lui présenta Georges. Les deux hommes causèrent ensemble, parurent s'apprécier et se sentirent attirés l'un vers l'autre en vertu de l'affection qu'ils portaient à la même femme. Un sentiment commun, s'adressant au même objet, unit ou désunit les hommes selon la trempe de leur caractère et la hauteur de leur âme, mais ne les laisse jamais indifférents. Georges et Ladislas étaient faits pour se plaire, et ils se plurent. Lorsque le comte partit, reprenant sa route pour obéir à des devoirs qu'il appelait loin de la France, il laissa un ami de plus derrière lui. Quelques jours après, un matin que Georges entrait chez Pauline, elle put remarquer en lui un changement dont elle fut surprise. Je ne sais quoi de hardi et de déterminé brillait dans ses yeux ordinairement si doux. Quelque chose de bref sonnait dans sa voix, et son sourire ressemblait à une provocation. Pauline n'eût point été femme si elle n'eût compris qu'une détermination mauvaise s'était emparée de l'âme de Georges, et que, là peut-être, de leur vie douloureuse, il s'était dit en venant chez elle « Oh, il faut en finir !» Elle eut peur. D'un de ces petits bruissements des lèvres auxquels les mères excellent, elle appela son fils qui jouait dans le salon voisin. L'enfant accourut. Elle le garda un moment près d'elle, puis tout à coup, le saisissant dans ses bras, elle le posa sur les genoux de Georges en lui disant « Embrasse ton ami !» Georges prit l'enfant, regarda Pauline, et dans ses yeux une lueur passa qui semblait dire « C'est une trahison !» Il resta quelques instants immobile, évidemment en proie à un combat terrible. Peu à peu, son visage reprit son calme ordinaire, un triste sourire effleura ses lèvres pâles, il remit le petit garçon entre les bras de sa mère, et parlant à Pauline avec une voix pleine de soumission, « Je vous rends votre fils, lui dit-il, laissez-le retourner à ses joujoux. » Il avait regardé l'enfant et, pensant à sa propre mère, dont le souvenir pesait toujours en lui, il avait su refouler dans son âme les sentiments qui l'obsédaient. Ses luttes se renouvelaient et c'est par miracle qu'il résistait encore. Au fond, il se sentait perdu, mais comme il arrive presque toujours en pareilles circonstances, quand l'un faiblissait, l'autre se relevait, et c'est ainsi qu'ils marchaient dans la route choisie par eux-mêmes vers un but qu'ils n'osaient plus prévoir. Ils savaient bien, par exemple, que si une chute longtemps évitée venait enfin les surprendre, elle serait irrémédiable. Ni l'un ni l'autre, avec la passion qui les dévorait, ne se seraient accommodés de ces compromis douteux que voilent les convenances et qu'acceptent les âmes froides. Ils apercevaient alors, au bout de leur horizon, une séparation éclatante, un grand scandale en un mot, et ils fermaient les yeux comme pour chasser cette vision funeste. Les suites de leur amour eussent été si graves que parfois leur amour en semblait paralysé. Ils se soutenaient mutuellement dans leurs heures de défaillance. « Vertu, tu n'es pas un vain mot !» s'écriait parfois Pauline, épouvantée de ses propres pensées. Un jour, elle laissa tomber sa tête alourdie sur l'épaule de Georges et pleura beaucoup, sans parler. Il se pencha vers elle et lui serrant la main, comme on fait à ceux dont on peut soulager la souffrance. « Du courage, ma pauvre âme, lui dit-il, puisque le bonheur n'est pas fait pour nous. » Ce jour-là, il fut le héros. Et le lendemain, ce fut elle qui le releva d'une crise de faiblesse. L'idée de la mort, d'une mort commune et volontaire, leur traversa une fois l'esprit. Ils en parlèrent avec exaltation en des termes qui prouvaient l'affolement de leur cœur. Le petit Firmin, qui entra chez sa mère en caracolant sur un bâton, fit évanouir ces absurdes fantômes. De tels combats s'inscrivent en ligne indélébile sur le visage des lutteurs. Et Madame d'Alfaret s'inquiéta bientôt de l'altération profonde qu'elle remarquait sur les traits de son fils. Puisant la plupart de ses convictions dans l'expérience et les souvenirs de sa propre vie, elle ne croyait guère à la vertu, qu'elle appelait volontiers chez les femmes un raffinement de coquetterie. Après avoir vainement essayé d'arracher quelques convenances à Georges, elle alla résolument faire une visite à Pauline. Tout ce que l'usage du monde et l'habitude des mots à double entente peuvent donner d'astuces, elle l'employa pour découvrir le fond de l'âme de la jeune femme qui, sans se laisser dérouter une seule fois, persista à ne rien comprendre aux paroles de Madame d'Alfaret. Cependant, depuis que cet amour les ravageait, les jours et les mois s'étaient écoulés. L'année 1848 avait rejoint aux archives des siècles ses sœurs précédentes, et déjà les derniers jours de février 1849 annonçaient le printemps. Rien ne paraissait modifié dans la vie de Pauline et de Georges. Mais ils étaient arrivés aux dernières limites de leurs forces. Ils touchaient à une de ces heures fatales pour les maladies de l'âme, comme pour celles du corps, au-delà desquelles les médecins ajournent l'espérance. L'instant était venu de la crise qui allait les perdre ou les sauver. Oh, Pauline le sentait bien. « Oh, tout est perdu, se disait-elle, si nous ne prenons un grand parti. » Quant à Georges, il s'abandonnait au hasard et il n'entendait plus en lui qu'un immense bourdonnement. Un soir de février, par un de ces temps humides et tièdes qui souvent en France annonçaient les approches du mois de mars, Georges était assis auprès de Pauline. Monsieur de Chavry était sorti. L'enfant dormait. Le salon était plongé dans une demi-obscurité que traversaient parfois les lueurs intermittentes d'un feu près de s'éteindre. Sans se parler, il regardait avec une fixité machinale les bûches presque consumées qui flambaient encore sur les cendres. Une grande langueur était en eux. Pauline avait laissé tomber son ouvrage, elle écoutait avec effroi les battements de son cœur. Georges se disait « Mais dans quelle bourgade d'Italie faudrait-il aller nous cacher ?» Il se leva, ouvrit la fenêtre, une bouffée d'air chaud entra, qui le frappa au visage. Au-dessus des nuages, la lune, brillante et large, semblait se reposer sur d'immenses coussins bordés des couleurs de l'iris. Les arbres noirs détachaient leurs silhouettes mobiles sur la lumière du ciel. Quelques-uns étaient si hauts qu'ils paraissaient porter les étoiles, épanouies au sommet de leurs branches, comme des fleurs de feu. Pauline était venue, près de Georges, s'accouder à la fenêtre. « Oh !» lui dit-il, « m'en aller avec vous bien loin, au-delà des mers, d'avoir pour souvenir, pour espérance, que l'éternelle adoration dont mon âme est remplie. »« Taisez-vous !» lui répondit Pauline. « Ne tentez pas une pauvre créature qui a remis son honneur entre vos mains et qui doit mourir auprès du devoir comme un soldat meurt auprès du drapeau. » Georges baissa la tête. Pauline s'enveloppa les épaules d'un châle et, prenant le bras de Georges, « Allons faire un tour dans le jardin, dit-elle. Cette belle tiédeur de l'herbe fera du bien. » Ils descendirent, longtemps muets et comme enlevés au-dessus des choses de la terre, ils marchèrent dans les allées que la lune rayait de longues traînées blanchâtres. Parfois, ils échangeaient un mot, puis retombaient dans le silence. Elle était tout entière appuyée à son bras, et il se sentait accablé par ce doux fardeau qui jadis lui parut si léger. Parvenus à un quinconce formé de tilleuls, ils s'arrêtèrent et s'assirent sur un banc de bois. Georges baissait toujours les yeux. Pauline, au contraire, levait le front et recevait en plein visage la clarté céleste. « Mais croyez-vous donc qu'il ne vaudrait pas mieux mourir ?» s'écria tout à coup Georges en se tournant vers elle. « Taisez-vous, taisez-vous » lui dit-elle en lui mettant la main sur la bouche. Georges la prit dans ses bras avec violence et pour la première fois, leurs lèvres se rencontrèrent dans un de ces baisers dont Byron a parlé. Oh, ce ne fut qu'un éclair! Pauline jeta un cri et se sauva en courant. Lorsque George la rejoignit au bout de quelques minutes, il la trouva dans le salon, presque renversée sur un canapé, la face contre les coussins. « Au nom du ciel !» cria-t-elle en joignant les mains. « Allez-vous-en ! Ne revenez pas me voir ! Attendez que je vous rappelle !» George s'approcha. Elle se leva, passa son bras sous le sien, marchant et se soutenant à peine. Elle le conduisit ainsi jusqu'à la porte du salon. « Je veux être seule, mon ami, lui dit-elle. Partez, je vous écrirai dès que je pourrai vous voir. » George obéit. Le lendemain, vers 1 heure, au moment où il allait écrire à Pauline, il reçut d'elle un billet qui ne contenait qu'un mot. « Venez !» Il ne se jeta pas dans une voiture et ne courut pas chez Pauline, comme on pourrait le croire. Il allait doucement, le visage penché, le cœur plein de troubles et l'âme indécise. Il croyait marcher vers ce bonheur qui lui était toujours apparu si grand qu'il lui semblait de ne devoir pas être de ce monde. Et au moment d'y toucher, de le saisir, il se sentait envahi par une indicible amertume. Hélas, il en est de la félicité des hommes comme de ces jardins qu'enferment des murs défendus par des broussailles de fer. On ne peut y entrer, on ne peut en sortir qu'en se déchirant les mains. C'était bien son idole qui venait à lui, mais elle descendait de son piédestal. Oh, elle aussi, se disait-il. Tous les obstacles, tous les dangers lui apparaissaient à cette heure grandis et multipliés. Il voyait ses forces épuisées par ses luttes de chaque jour. Il levait les épaules avec colère, comme en présence d'une impossibilité, lorsqu'il pensait à ce rêve de vertu qu'aujourd'hui il traitait de chimère. Et quand ses sentiments lui revenaient en mémoire, il en chassait le souvenir avec le mot suprême des révolutions. Mais il est trop tard. Ainsi battu et heurté par ce chaos de pensées contradictoires, il arriva chez Pauline. Le premier mot de Georges fut un reproche sur la façon dont elle l'avait renvoyé la veille. Elle le regarda avec surprise et, lui prenant la main, « Asseyez-vous, lui dit-elle, et écoutez-moi, car je n'ai pas voulu vous quitter sans vous dire adieu. » « Nous quitter !» cria Georges. « Eh, grand Dieu, que dites-vous ?» Toutes les pensées qu'il avait troublées durant la route disparurent et s'évanouirent devant cette menace d'une séparation à laquelle il n'avait jamais songé. « Oui, reprit-elle d'une voix tremblante, oui, il faut nous quitter. Parce que vous m'aimez, parce que je vous aime, parce que tous deux, hélas, nous sommes si bien vaincus qu'il n'y a plus de salut que dans la fuite. Si vous le consentez à partir, c'est moi qui partirai. Je n'ai plus ni force ni courage, et ce sacrifice qui seul peut nous sauver encore, je demande à votre pitié, puisque je suis si lâche que toute vertu s'est anéantie en moi. Ne m'interrompez pas, ne laissez-moi finir. Je me suis promis de vous dire certaines choses, je vous les dirai. Après ce qui s'est passé hier entre nous, le doute ne m'est plus possible. Nous sommes arrivés à un moment fatal. Poussés par la passion de nos cœurs, nous allons tout oublier et entrer dans une voie misérable qu'il faut éviter à tout prix. Mais que ferons-nous si nous succombons? À votre premier signe, je me lèverai, je partirai, je vous suivrai. Et mon fils, y avez-vous pensé? Quel héritage lui laisserai-je? Mais cet homme, bon après tout, qui m'aime autant qu'il peut aimer, cet homme dont librement j'ai accepté le nom, que trouvera-t-il dans sa maison vide lorsque je l'aurai quitté, au lieu du repos de l'honneur et de la considération que je lui dois, puisqu'il me les a donnés? Resterons-nous au contraire? Accepterons-nous cette triple honte dont le monde s'accommode et à la pensée de laquelle tout mon cœur se soulève? Vivrons-nous englués dans nos mensonges et sentant chaque jour nos âmes s'abaisser dans cette voie de trahison? Exposerons-nous à tant de misère le sentiment qui exalte nos cœurs? Dans nos causeries, souvent vous m'avez raconté la mort de votre père. Vous souvenez-vous de sa dernière parole? Il n'y a d'éternel que la vertu, que la vérité. Ah, Georges, restons dans la vérité, qui pour nous est le sacrifice et le devoir. Que Dieu ne me punisse pas de ce que je vais vous dire, car je ne fais aucun vœu coupable, mais enfin, mon pauvre Georges, si j'étais veuve à l'instant, mais je mettrais ma main dans la vôtre. Je ne suis pas libre, vous le savez. Je ne veux trahir aucun des devoirs que je me suis imposés. Et je ne veux pas non plus, entendez-vous bien, Georges, je ne veux pas jeter mon amour pour vous aux chances d'une vie impossible. Elle s'arrêta car ses sanglots la suffoquaient. Georges, le front appuyé contre le rebord de la cheminée, écoutait comme dans un songe. Quand vous fûtes parti hier au soir, reprit-elle, j'ai attendu monsieur de Chavary. Je lui ai pris la main, je lui ai tout raconté. Je l'ai supplié de me sauver, de nous sauver tous. Je me suis humilié devant lui, me sentant coupable car mon cœur, du moins, lui est infidèle. Et il aurait le droit de me demander compte de mes pensées les plus secrètes. Ne vous effrayez pas, Georges. Je ne me repens pas et je serai prêt à recommencer s'il le fallait encore. Et savez-vous ce qu'il a fait? Il m'a baisé au front et m'a dit: vous êtes, ma pauvre Pauline, la femme la plus honnête que j'ai jamais rencontrée. Aujourd'hui, vous me demandez mes conseils. Oh, je ne puis vous les donner, car hélas, je vous avoue que je ne sais rien de ces luttes de vertu dont vous me parlez. Pensez non pas à moi, qui n'ai peut-être pas le droit d'être bien exigeant avec vous, mais pensez à votre fils. Il me laissait plus anéanti encore. Il s'éloigna, et quand il fut près de la porte, qu'il tenait déjà entr'ouverte, il tourna vers moi son visage tout pâle. Si vous désirez faire un voyage, Pauline, je suis à vos ordres, et nous irons où vous voudrez. Mon premier mouvement fut de le prendre au mot et de lui crier: partons! Mais partir sans vous revoir, Georges, je ne m'en suis pas senti la force. Et puis n'est-il pas plus digne de nous d'envisager courageusement toute notre infortune, qu'envierait bien des prétendus bonheurs et de nous dire adieu, comme deux êtres honnêtes qui toujours pourront se regarder en face, qui jamais n'auront rien à regretter, car ils n'ont rien fait dont ils aient à se repentir? Georges releva la tête. Son visage était baigné de larmes. Il prit les mains de Pauline et s'inclina vers elle en les baisant avec ardeur. Lorsque je suis venu vers vous, dit-il, j'ai senti que je vous donnais ma vie. Il vous plaît d'en disposer aujourd'hui pour un sacrifice qui fera peut-être l'amertume de tout notre avenir. L'amour dans la plénitude de son bonheur est impossible entre nous. Oh, je fais mieux que l'admettre, je le sais. Vous voyez dans mon départ un moyen de salut. Soit je ne discuterai pas, je vous obéirai. Dans 8 jours, je serai parti. Pauline jeta un cri de joie en même temps qu'un cri de douleur. Le petit Firmin entra pour embrasser sa mère avant d'aller aux Tuileries. Elle le prit dans ses bras et le serrant avec emportement. Ah ! S'écria-t-elle, cher petit, c'est toi qui me sauves et qui me perds. L'enfant, effrayé, se mit à pleurer. Georges, comme tous les hommes de courage, avait repris sa sérénité en présence d'un malheur accompli, et ce fut lui qui calma le fils et la mère. Monsieur de Chavrines n'avait changé aucune de ses habitudes. Il avait continué à vivre près de sa femme comme si jamais ne lui fait aucune confidence. 2 jours après la détermination prise par Pauline, il avait plusieurs personnes à dîner. Dans le courant de la soirée, Georges s'approcha de lui. « N'avez-vous pas quelque commission à me donner pour Smyrne ou Constantinople ?» lui dit-il. « Je vais partir pour l'Orient. » Si maître qu'il fût habituellement de ses impressions, M. de Chavrines ne put éteindre l'éclair de joie qui traversa son regard. Il étouffa le soupir de soulagement qui dilatait sa poitrine. Il remercia Georges de ses offres et lui parla avec un abandon qui ne lui était pas ordinaire. En apprenant le départ de son fils, Madame d'Alfaret jeta les hauts cris. Elle courut chez Pauline. « Le laisserez-vous partir ?» lui dit-elle. Las, énervée et courbée sous le poids trop lourd de sa propre résolution, Pauline brisa la glace d'un mot. « Un de nous deux doit s'éloigner, » dit-elle, « lui ou moi. S'il reste, je pars. » Madame d'Alfaret n'en croyait pas ses oreilles. Elle se creusait la tête. « Mais quelle est cette comédie-là » se dit-elle, et elle n'y comprenait rien. Le jour du départ était venu. Pauline se cramponnait à sa volonté. La lutte n'était pas éteinte en elle. 20 fois elle avait été sur le point d'écrire à Georges « Restez !» 20 fois elle avait pensé à le suivre. Quant à lui, sa bataille était finie. Il était résigné. Peut-être, cependant, n'aurait-il point quitté Paris et eût-il essayé de continuer cette lutte dangereuse. S'il avait rencontré près de lui, chez sa mère, un soutien moral qui eût pu l'encourager. Mais au lieu de ces conseils sévères et parfois douloureux à suivre, que son père lui eût certainement donné, il ne trouvait en elle que des railleries peu généreuses, une ignorance absolue des sentiments dont il avait nourri et fortifié sa passion. Il alla faire ses adieux à Pauline. À force de raisonnement, tous les deux s'étaient, pour ainsi dire, prémunis contre leur émotion. Elle fut vive, cependant, si vive, que Georges se leva précipitamment pour la fuir. « Adieu, » dit-il. « Quand vous reverrai-je, oh, le sort seul en décidera. Je pars pour un exil qui n'aura de terme que par votre volonté. » Il s'arrêta, il baissait les yeux et n'osait regarder Pauline, qui, assise et la tête renversée contre son fauteuil, laissait couler ses larmes. « Vous ne m'avez jamais rien donné, » reprit-il en froissant, comme pour se donner une contenance, quelques bijoux répandus sur le marbre de la cheminée. « Laissez-moi emporter un de ces bijoux. Ce sera pour moi un souvenir vivant, qui ne niquera jamais. »« Prenez ce bracelet, » répondit Pauline. « Un de mes grands-oncles me le rapporta des Indes il y a bien longtemps. » Jeune fille, je le portais. C'est le seul de mes bijoux auquel je tienne. Gardez-le, qu'il vous protège et vous parle de moi. » Georges prit le bracelet. Il était composé de 3 grosses lames d'or reliées entre elles par un chaînon. Sur chacune des lamelles, des mots arabes étaient écrits. Georges les lut et, se tournant vers Pauline avec un sourire plus triste que des sanglots, « Savez-vous, lui demanda-t-il, ce que signifie la phrase gravée sur ce bracelet? « Oui, répondit-elle. Lesquels mestekabel bit felaha, Inch'Allah, épela-t-il lentement. Avec le succès, l'avenir est à toi, s'il plaît à Dieu. Oh, je crains bien qu'il ne lui plaise pas. Savez-vous, Pauline, qu'il y a là presque une promesse et que si j'étais un sage, je ne partirais pas. Pauline sentit le danger. L'heure était trop propice aux faiblesses pour qu'elle ne cherchât point un faux fuyant. Elle se jeta dans des phrases vagues. Mais l'avenir n'est-il pas à vous? Mais ce n'est pas de cet avenir que je parle, interrompit Georges avec vivacité. Vous ne m'avez pas compris. Et il rejeta le bracelet sur la table. C'est parce que Pauline l'avait trop bien compris qu'elle faisait semblant de le si mal comprendre. Il marcha vers elle, la prit dans ses bras, l'appuya sur son cœur, l'embrassa longuement comme on embrasse une sœur qu'on craint de ne jamais revoir, et se sauva sans oser retourner la tête. Le soir, il partait. Ayant déjà dit adieu à Madame d'Alfaret, il jetait autour de lui, dans son appartement, ce regard mélancolique et amer que seuls peuvent connaître ceux qui, le cœur brisé, sont partis pour de longs voyages. Lorsqu'un domestique de Pauline entra et lui remit une petite boîte, elle ne contenait que le bracelet. Ah, se dit-il, est-ce donc un remords? Si je n'avais mis notre bonheur au-dessus des choses de la terre, je comprendrais à demi-mot, et si je restais, je n'aurais pas grand-peine à me faire pardonner. Il n'avait pu trouver de place au mal-poste, et il partait modestement par des diligences, seul et sans domestique. Dans la cour de messagerie, il aperçut M. de Chavry. J'ai voulu vous serrer la main avant votre départ et vous apporter le vœu de l'étrier, dit-il à Georges. Oh, si jamais vous avez besoin d'un habit, monsieur d'Alfaret, n'oubliez jamais, je vous prie, que je suis le vôtre. Georges fut touché de cette démarche. Mais il était en veine d'amertume. Bah, dit-il après quelques secondes de réflexion. Il est simplement venu s'assurer de mon départ. Quand la voiture s'ébranla, il eut comme un soupir de soulagement. Enfin, c'est donc bien fini et il n'y a plus à y revenir. En entendant le bruit sourd et saccadé de la diligence lancée au trot, en écoutant les cris du postillon, le frémissement des vitres, il lui sembla que c'était le fracas de toute sa vie qui s'écroulait sur lui. Au chemin de fer, pour hisser la voiture sur le truc, il eut de nouveaux retards. Georges regardait autour de lui avec inquiétude. Pourvu, se dit-il, que personne n'ait eu l'idée de venir encore me dire adieu ici. Personne ne vint. Le convoi se mit en marche. Georges rabattit sa casquette sur ses yeux et resta plongé dans une rêverie infinie à laquelle servait de thème la dernière phrase que sa mère lui avait dite en le quittant. Mais tu es fou! À Marseille, il alla chez un orfèvre qui lui riva au bras droit le bracelet de Pauline. Et à bord du bateau à vapeur, il ne s'étonna pas trop lorsqu'il voyait sourire les passagers qui apercevaient les chaînons d'or battant sur son poignet. Il écrivit à Pauline de Malte, de Smyrne et de Constantinople. La seconde lettre qu'il lui adressa de la vieille Istanbul était datée des premiers jours de mai et mérite d'être citée. Hier, j'ai été assis dans un café sur les quais de Bébec. J'entendais, sans l'écouter, un pauvre Bulgare qui chantait un air triste et lent en s'accompagnant d'un fténegour. Je tenais machinalement entre mes doigts les longs tuyaux d'un marguilé éteint. Je regardais un groupe de goélands qui nageaient sur le Bosphore et que doraient les reflets du soleil couchant. Il y avait un grand calme partout. Une sorte de silence lumineux enveloppait toute chose autour de moi. J'étais engourdi dans mes songeries et je pensais à vous. Sur le quai, un homme à cheval passa, qui jeta un cri de surprise en m'apercevant. Je courus à lui. C'était le comte Ladislas Palki. Oh, jugez de notre étonnement. Le premier mot qu'il prononça fut votre nom. La mission qu'il était venu accomplir à Paris avait échoué. D'Allemagne, où il était retourné, il vint en Italie, puis ici et maintenant, il va se jeter en Hongrie. Ne soyez pas surprise, Pauline. Je vais l'accompagner. Que Dieu nous garde tous. Me blâmerez-vous de ce projet si rapidement conçu et que, dès demain, je commencerai à mettre à exécution? Non, n'est-ce pas? La cause à laquelle je vais porter l'humble secours de mon bras a de quoi séduire les grands cœurs, et je sais qu'elle n'a pas laissé le vôtre indifférent. Il y a là une belle guerre, je veux m'y mêler. Il y a là un beau principe, je veux le servir de toutes mes petites forces. Du reste, je vais passer la nuit à causer avec Ladislas. Et notre ami m'a tourné la tête. Donc vive la Hongrie! Nous allons reconquérir la couronne de Saint-Étienne. Si dans cette absence que nous sommes imposés, je restais libre, tout serait perdu, je reviendrais. Si une forte obligation, si un devoir ne s'interpose pas entre vous et moi, ma volonté faillira, mon courage déjà ébranlé, m'abandonnera tout à fait. J'accourrai près de vous, coûte que coûte, et au risque de notre cher repos. Et puis, vous le dirai-je, le sentiment qui me pousse n'est peut-être pas bon. Mais vous le comprendrez, vous qui comprenez tout. Je ne veux pas que vous vous disiez avec quiétude: il voyage, il voit de belles choses, il est heureux peut-être. Je ne veux pas que vous vous accoutumiez à mon absence. Je ne veux pas, égoïste que je suis, que mon nom cesse de vous troubler. Quand vous saurez que je cours des dangers, que je couche sur la terre nue, cherchant des yeux les étoiles que vous pouvez apercevoir, quand vous saurez que mon sort est mêlé à celui des armées qui se heurtent sur les rives du Danube, alors vous penserez à moi, vous prierez pour moi. Mon souvenir, ravivé par l'inquiétude, ne vous laissera pas en repos. Je saurai que vous me regrettez, que peut-être vous vous repentez de m'avoir fait partir, et que la nuit, en entendant sonner les heures de votre vie solitaire, vous vous direz « Mais où est-il ?» et que vous ajouterez peut-être « Pourquoi n'est-il pas là ?» Ne vous inquiétez pas trop, cependant. Quand un homme porte en lui la passion que je sens en moi, il est sacré pour Dieu et nul péril ne peut l'atteindre. Ladislas prétend que je ferai un bon soldat. Oh, il s'y connaît, et vous pouvez l'en croire. Je réponds de vous, m'a-t-il dit. J'ai eu confiance en lui. Moi, je vous dirai, Ayez confiance en nous. » Par le courrier qui apportait cette lettre à Pauline, Madame d'Alfaré en reçut une qui lui annonçait la résolution de son fils. Elle courut chez Pauline, qu'elle trouva baignée de larmes et en proie à un vrai désespoir. « Hélas !» lui dit la mère de Jean, « mais pourquoi n'avez-vous pas empêché son départ ?